Hier soir, nous sommes venus t'écouter à l'Iliade lors d'une soirée conte avec une salle pleine, très féminine et avec une écoute particulièrement attentive. Donc on est contente de te rencontrer de nouveau ce midi. Et évidemment, on a plein de questions à te poser. Une des premières serait en fait de nous expliquer quel est ton parcours, puisque tu es parti du sud Liban jusqu'à nous en passant par l'Orient, Beyrouth, Montpellier, Avignon et sans doute encore beaucoup d'autres villes en Orient et en Occident. Donc on a envie de savoir d'où tu viens et pourquoi aujourd'hui tu es conteur.
Oui, déjà merci de m'accueillir, merci aussi d'être venu hier soir écouter. C'est toujours mystérieux et magique quand il y a deux oreilles qui se déplacent pour écouter un conteur. On ne sait pas pourquoi les gens quittent leur maison et viennent, même quand il fait froid. Donc merci d'être venu. Posez toutes les questions que vous voulez, je réponds quand je sais, je dirai non quand je ne sais pas. D'où je viens? Je viens du sud Liban, d'un petit village qui a grandi beaucoup pendant la guerre du Liban, mais c'était un petit village à l'époque quand je suis né. J'ai fait beaucoup de chemin, mais comme ça, je me suis installé dans peu de lieux. Je suis installé au Liban et dans le sud de la France, c'est les deux lieux où je suis installé vraiment, c'est-à-dire que j'ai habité. Sinon, c'est vrai, mon premier métier et mon deuxième métier font que je suis souvent sur la route et ça tombe bien.
Premier métier, c'est quoi? C'est professeur d'arabe ou c'est un autre métier
Non, c'est un autre métier encore. En vérité, j'ai fait des métiers qui sont arrivés par hasard. Je n'ai jamais vraiment programmé pour faire un métier. C'est des rencontres humaines qui ont fait que j'ai fait tel ou tel métier. J'avais fait des études scientifiques donc qui n'ont rien à voir avec ce que je fais maintenant. J'étais attiré par la littérature, j'écrivais, j'essayais d'écrire, j'écrivais des poèmes, j'écrivais des petites nouvelles, mais j'étais plus scientifique, en tout cas dans mes choix d'études. Dès que j'ai fini mes études, il y a une radio qui s'est ouverte à Paris, dirigée vers le Moyen-Orient, une radio en arabe. Ils cherchaient des journalistes, et je ne l'étais pas du tout, mais ils cherchaient des journalistes. J'ai fait un test, j'ai été admis, accepté, et j'ai travaillé comme journaliste. Donc mon premier métier, c'était journaliste radio.
Donc ce métier de journaliste radio, on peut en parler si tu en as envie. Quel était ton rôle dans le sein de cette radio? Où est-ce que ça t'a amené? Et est-ce que quelque part ça t'a pas amené aussi à devenir le conteur que tu es aujourd'hui? Puisque le métier de journaliste t'amène à se déplacer, à faire des rencontres aussi, à couvrir des événements plus ou moins heureux forcément. Et est-ce que ça t'a amené après justement à dire autrement ce que tu avais pu vivre, ce que tu avais pu découvrir lors de tes virées de journaliste?
En fait, tout ça, c'est des réflexions qui viennent après. Hein. J'ai jamais programmé une carrière ou un métier. Les choses viennent, je prends, puis je fais un bout du chemin, je lâche. Le conte, c'est peut-être la seule chose qui ne m'a pas lâché du tout. Le conte, j'avais commencé très tôt, avec ma mère, très tôt, enfant, j'avais commencé. En tout cas, c'est l'activité ou c'est la passion qui ne m'a jamais quitté. Avant d'être journaliste, pendant que j'étais journaliste, après aussi, ça a toujours été un fil qui restait tout le long de ma vie. Ma place à la radio, j'étais journaliste politique, donc les informations, donc préparer les informations et les annoncer à la radio. Ça a commencé à Paris, puis quand je suis rentré au Liban, c'était à Beyrouth. J'écrivais dans des journaux écrits, mais c'était une activité secondaire. Mon activité principale est restée journaliste radio, toujours politique, les informations. Une période, je m'occupais de politique internationale, une période Moyen-Orient. Non, c'est sûr, je me suis rendu compte, là maintenant, à l'âge où j'arrive, je me suis rendu compte que j'ai toujours fait des métiers qui sont liés à la parole. Même si j'écris beaucoup, même si j'aime écrire, même si j'ai toujours écrit, jamais l'activité de l'écriture n'a remplacé l'activité orale de la parole. Donc, je suis toujours attiré par ça. C'est vrai aussi, je me rends compte que je ne tiens pas en place. À une période, je me posais des questions, pourquoi je ne tiens pas en place, pourquoi je suis toujours appelé par la route, pourquoi j'aime bouger tout le temps. Je ne me pose plus du tout la question, je sais que c'est comme ça maintenant, que ça me convient. Que c'est... Et c'est vrai, le premier métier de journaliste me permettait de bouger. J'ai bougé même quand je n'avais pas de mission pour bouger, je bougeais à titre personnel pour couvrir des événements parfois. Et le métier que je fais maintenant, c'est un métier qui je n'ai pas envie de dire qu'il m'oblige parce que j'adore ça, mais qui fait que je suis tout le temps sur la route aussi. Et j'aime ça. C'est un peu frustrant parfois parce qu'il y a des lieux où j'ai envie de m'installer un peu plus longtemps. Mais entre cette frustration et le plaisir que j'ai à bouger, je crois que les choses sont claires, je préfère bouger. Oui.
Donc en fait, c'est vraiment depuis 1984 environ que tu es compteur, on va dire, déclaré officiellement. Est-ce que ça a été une évidence, c'est-à-dire que tu t'es dit à un moment, de toute façon, il ne peut pas en être autrement, il faut que je sois vraiment... compteur, non pas que tu n'y étais pas avant, au contraire, parce que tu nous as expliqué que c'était vraiment un fil conducteur de ta vie depuis que tu étais tout petit, avec les histoires que pouvait raconter ta maman, et puis les autres femmes du quartier, parce que tu en parlais aussi hier, est-ce que ce sont les opportunités qui ont fait que finalement tu t'es dit, oui, pourquoi pas laisser tomber complètement le métier de journaliste et devenir compteur à plein temps?
Honnêtement, c'était pas du tout une décision. C'est-à-dire, je me rappelle pas avoir réfléchi un jour en disant est-ce que ça vaut la peine de quitter ce que je fais pour consacrer à ça. C'est venu par
ça,
glissement.
Naturellement.
Mais tous les métiers que j'ai exercés dans ma vie sont venus par glissement ou par des rencontres humaines. Quand j'étais journaliste à Beyrouth, il y a eu aussi une rencontre humaine avec des amis que je connaissais depuis longtemps. Mais comme ça, un soir, une discussion qui part sur l'édition, les genres d'édition qui manquent, l'édition pour la jeunesse, l'édition littéraire. Et on a monté une maison d'édition au milieu de la guerre, alors que c'était une folie, on n'avait pas d'argent. Mais c'est parti comme ça, une aventure nouvelle. Peut-être 2 mois avant de monter la maison d'édition, j'étais absolument pas là-dedans. J'étais journaliste, j'étais à plein temps journaliste et je pouvais dire que j'avais pas vraiment le temps pour un autre projet. Et pourtant, j'ai vécu les 2 projets avec bonheur. Quand j'ai quitté le Liban en 83, un peu poussé par la vie, je ne me suis pas posé de questions non plus. J'ai pas peur de la vie, pour ne pas dire j'aime la vie. Il n'y a rien qui me fait peur. Donc en arrivant quelque part, je commence à chercher un peu qu'est-ce que je peux faire. Et le premier travail que je fais en arrivant en France, c'était enseigner à gauche à droite, parce que c'était une possibilité qui s'est présentée. Je cherchais du travail, je cherchais à ramasser des pommes. Et j'étais pas du tout censé enseigner. On me reposait la question aussi un mois avant, tu seras enseignant, j'aurais éclaté de rire. J'étais absolument pas préparé pour enseigner, j'ai aucun diplôme qui le permet aussi. Donc j'ai commencé par donner des cours au Greta, dans le centre de formation, et puis le hasard a voulu que je fasse un crochet par la fac de lettres, pour complètement autre chose, pour aller clocher dans un cours d'ethnologie qui parlait d'un conte qui me fascinait, qui s'appelle Jean de l'Ours. Le département d'ethnologie et le département d'arabe à la fac d'Aix sont l'un au-dessus de l'autre. J'ai fait un détour par là, une belle rencontre qui a fait que j'ai enseigné à la fac parce que j'étais journaliste et ils avaient besoin de quelqu'un qui monte un cours de presse. Voilà, mais je n'ai pas de diplôme pour enseigner non plus. Donc tout ça, c'est venu comme ça. Maintenant, je faisais mes soirées en arrivant en France. Je connaissais des gens déjà, hein. J'avais déjà des amitiés. La France, ça servait toujours des bases. Je suis arrivé en France en partant au Maroc pour essayer de monter une maison d'édition avec un ami marocain. Ça n'a pas marché. Je suis revenu en France, respirer un peu. Je suis parti en Tunisie pour essayer de monter une maison d'édition aussi avec un ami tunisien. On ne s'est pas mis d'accord sur quelle idéologie, quelle idée, quelle politique la maison d'édition. Je suis revenu en France. Donc, et pendant ce temps-là, j'essayais de travailler un peu. Maintenant, 20 ans plus tard, plus de 20 ans plus tard, je me rends compte que c'était peut-être la période la plus difficile dans ma vie. C'était plus difficile que la période de la guerre au Liban parce que j'étais nulle part. Je voulais pas m'installer en France, mais en même temps, tout me ramenait par là. Donc, je ne voulais pas de travail stable non plus en France parce que je voulais pas m'installer. Donc c'était une période comme ça. Et les amis... commencé à me proposer de venir animer des soirées contes ou des après-midi contes. Mais tout simplement parce que je savais que je racontais des contes, que j'aimais ça. Mais ce n'était pas du tout une activité, ce n'était pas un métier à l'époque pour moi. Et quand j'ai vu que moi je prenais beaucoup de plaisir et que les gens écoutaient, me demandaient de nouveau des soirées contes, la vie a fait que j'en ai fait de plus en plus. Je fais des ateliers, je fais des soirées contes. Mais ce n'était pas du tout mon métier là en 83, 84, je suis arrivé. C'est vers la fin de 84 où je commençais à en faire un deuxième métier. J'enseignais à gauche, à droite, et je racontais. Je ne sais pas, enfin, vous devez le deviner un peu quand il y a un oriental, quelqu'un du sud, un africain, un oriental, peu importe qui vient à l'étranger. Souvent, il a une ou deux familles aussi sur les épaules au pays, c'est les rendez-vous. Donc voilà, je travaillais, mais en tout cas, il faut dire aussi que j'ai pas souffert pour trouver du travail. J'ai peut-être une étoile, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai pas souffert ça. Mais je me suis jamais eu des angoisses non plus, hein. Donc petit à petit c'est venu par glissement. Et quand j'ai commencé à enseigner à la fac de lettres à Aix-en-Provence puis à Sciences Po, le conte était mon activité principale déjà. C'est-à-dire que si j'ai passé 10 heures à enseigner, j'ai passé quasiment 50-60 heures par semaine, soit à faire des ateliers contes, soit à raconter, soit à former des jeunes conteurs. Donc c'était une passion qui prenait de plus en plus de place, parce que c'était un métier. C'est-à-dire que j'en vivais quasiment avec ma famille ici, et le reste, c'est-à-dire que l'enseignement servait pour le Liban, pour mes responsabilités là-bas. Donc ça commençait à être un métier par glissement. Et j'ai mis des années avant de dire, encore aujourd'hui c'est difficile pour moi de dire je vais travailler, parce que voilà, ça a été toujours séparé de ma tête dans le champ de travail, même si j'en vivais matériellement. Et au bout d'un moment, je me dis, ben oui, un métier c'est quelque chose qui permet de vivre, c'est un métier, donc c'est mon métier, voilà, dans ce sens-là c'est mon métier. Mais c'est vraiment venu par glissement, c'est-à-dire je n'ai pas dit à un moment, voilà, maintenant j'arrête d'enseigner, j'arrête toute activité et je reprends ça. Quand j'ai arrêté d'enseigner, c'était avec le projet de revenir au Liban. J'avais en tête de revenir. Parce qu'à un moment, les enfants grandissaient. J'ai dit, soit je rentre maintenant, soit après ça va être très difficile. Je ne peux pas leur imposer après un retour au Liban, malgré leur enthousiasme, entre l'enthousiasme et aller passer 2 semaines ou entre aller vivre. Je n'étais pas sûr que les filles vont s'adapter. Donc c'était à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter d'enseigner et de rentrer au Liban. Ce retour n'a pas pu se faire, c'est-à-dire une fois au Liban, je me suis rendu compte, enfin, la vie a voulu que je revienne ici. Et quand je suis revenu, j'ai trouvé, c'était le vieux répondeur, j'avais une cassette d'une heure et demie, donc 3/4 d'heure d'un côté, elle était pleine de gens qui m'appelaient pour des soirées contes. Donc je regardais, j'avais un programme qui a été fait sur 3-4 mois. Et puisque je venais de démissionner de l'enseignement, enfin je n'avais pas renouvelé mon contrat parce que j'ai parti, je suis parti là-dedans. Et vu que je n'avais pas eu le temps de faire autre chose, que je prenais beaucoup de plaisir, je n'ai pas cherché à faire autre chose. Voilà, donc ce n'était pas vraiment une décision réfléchie, planifiée, ça a glissé comme ça. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à ça.
Alors, je ne pense pas qu'on l'ait évoqué, mais pourquoi est-ce que ça a été la France où tu as décidé de t'installer? Pourquoi ça n'a pas été un autre pays?
L'amour peut être suffisant pour expliquer.
Ça peut être largement suffisant.
Je suis un amoureux éternel, donc oui, je fonctionne beaucoup à l'amitié et à l'amour, aux deux choses. Et la France m'a attiré pour ces deux raisons. J'étais venu faire mes études à Montpellier. J'ai rencontré ma femme là. Elle est venue avec moi au Liban. On a vécu au Liban. Elle a travaillé au Liban. Et quand c'est devenu un peu instable, c'est-à-dire pendant l'invasion israélienne du Beyrouth en 82, notre maison d'édition a coulé complètement. Il y a eu tellement de changements politiques, ça, j'avais besoin de réfléchir, donc de sortir un peu. Elle, le hasard, avait voulu qu'elle soit déjà en France pour passer les médecins. Donc, elle était venue passer son dernier examen d'homéopathie. Elle s'est fait coincer pendant l'invasion. Elle est restée à, enfin, l'aéroport était fermé. Donc, c'était évident que je viendrais ici déjà la voir, parce qu'elle était avec ma fille déjà là, pour respirer un peu. Mais pour moi, c'était une base. Pour aller, l'idée, c'était monter une maison d'édition dans un autre pays arabe où c'était possible. Et j'avais des propositions des amis marocains, tunisiens, qui connaissaient mon travail comme éditeur et comme journaliste et qui voulaient qu'on monte un projet ensemble. Mais la France, c'était mon... C'est là où j'ai passé ma jeunesse, de l'âge de 19 ans à 24 ans, quand je suis venu faire mes études. C'est là où j'ai eu des amitiés extrêmement fortes. Et enfin, ça reste encore aujourd'hui mes plus grandes richesses, ce sont mes amitiés, donc je ne lâche jamais. Et donc c'était évident que je revienne respirer ici, me ressourcer ici et repartir. Et puisque les autres chemins s'est bouché un peu, puisque le fait d'avoir une base ici, ma fille à l'école, voilà, donc les racines. Et puis petit à petit, les racines poussent, d'autres amitiés naissent.
Est-ce qu'on peut revenir sur cette idée de maison d'édition et, parce que voilà, tu en parles souvent au fur et à mesure de tes époques. Tu as parlé à un moment de choses qui manquaient, d'édition pour la jeunesse. Bon, ça, c'est peut-être plus du coup lié au conte, mais apparemment, ce n'était pas forcément seulement ça. Qu'est-ce que tu avais comme projet d'édition en général?
Oui, on était plusieurs amis à lancer ce projet, des amis libanais et palestiniens. Le grand manque qu'on ressentait au début, c'était l'édition jeunesse de qualité. On commençait à avoir une première maison d'édition dans le monde arabe de qualité pour enfants et jeunes. C'était pas suffisant à notre avis pour couvrir toutes les demandes, mais c'était en plus des amis qui ont monté cette maison d'édition qui était basée au Caire, mais c'était une maison qui était appuyée par mouvement culturel palestinien pour aller vite un peu, ça s'appelait Dar al-Fatah, malheureusement n'existait plus, et qui faisait un travail vraiment de qualité, les textes et illustrations, c'était d'une grande qualité, et ça reste une référence, même si la maison d'édition n'existait plus. Et d'ailleurs, on a commencé, nous on n'a pas vécu très longtemps, on a commencé des contacts pour faire des projets ensemble. Donc c'était ça d'un côté. De l'autre côté, on sentait qu'il... c'était notre attirance. On sentait qu'il manquait un regard sur la littérature des pays du Sud. Donc on avait une collection qui s'appelait Mémoire des peuples et on tentait de faire des belles traductions de la littérature africaine, haïtienne, Amérique du Sud, mais aussi ailleurs, Japon. Et puis on sentait qu'il manquait de textes de réflexion stratégique pour les décideurs, les hommes politiques aussi. Donc on avait aussi une revue qu'on appelait la revue stratégique, qui était essentiellement des traductions des articles d'autres revues stratégiques internationales, des accords avec. Voilà, c'était un peu ça, mais en même temps, c'était aussi nos affinités. On avait là-dedans un ami qui, lui, avait une affinité artistique, donc on a commencé aussi une collection de livres d'art, par exemple, un des premiers livres d'art qu'on a sorti. On n'a pas vécu très longtemps, donc on a fait peu de choses, mais un des premiers livres d'art qu'on a sorti, c'était un poème de Mahmoud Darwish, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il était là cette semaine, donc chez vous. Les poèmes que Mahmoud Darwish a écrit après la chute du Tal Zaatar, le camp palestinien et le massacre du Tal Zaatar, donc il avait écrit un poème qui était illustré. Enfin, on l'a demandé à un grand peintre irakien qui s'appelle Diya Azzaoui d'illustrer, et on a sorti ce livre en arabe, français, anglais, en trois langues. Voilà, donc on avait des cartes postales sur les villes arabes, sur les villes palestiniennes, sur le... voilà, mais c'est une maison d'édition qui a vécu 3 ans et demi. Enfin, il a pris de l'ampleur parce qu'il y avait une ambiance spéciale dans cette maison, mais sinon, il a pas vécu longtemps du tout.
C'est à la fois, c'est vraiment des deux côtés de la Méditerranée, bon, et même plus loin, mais un mouvement peut-être d'éducation populaire vers la jeunesse des pays arabes, et aussi une meilleure... faire connaissance donc de ce qu'on appelle le Sud au sens large en, pour les Français. Pour les
oui, oui, parce que c'est, si tu veux, le Liban comme l'Égypte, hein, ce sont les deux pays de l'édition dans le monde arabe et les deux pays de traduction. C'est-à-dire qu'il y a des très bons traducteurs, il y a une ligne, une activité de traduction qui est ancienne, on ne l'a pas inventée, nous. Mais on sentait dans ces paysages-là un manque pour certaines régions du monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de littérature africaine traduite, mais il y avait tellement peu qu'on sentait que peut-être il faut aller chercher un peu là, il faut compléter ce paysage. À long terme, on avait, oui, l'idée un peu qu'on peut appeler éducation populaire. On n'a pas vécu suffisamment, mais le projet n'est pas mort, vu qu'il y a une des personnes qui était avec nous dans le projet, qui a continué, lui, dans l'édition, et qui a monté son projet, et qui est maintenant, son lieu, son projet, maintenant, c'est, on peut dire, le plus grand centre de ressources du monde arabe pour tout ce qui est formation médicale, sociale, des femmes. Il travaille avec l'UNESCO, Oxfam, avec...
Il s'appelle comment? Je ne sais pas si on
connaît. Il s'appelle Ran Mbibi. Il est basé à Beyrouth. Quand il y a eu le 82, quand on s'est éparpillé, que la maison d'édition a coulé, il est parti à Chypre où il a monté son projet. Et puis, il est revenu à Beyrouth. Et lui, il est parti loin dans ses projets. Ça devient vraiment un nœud absolument important dans tout ce qui est travail médical, social, éducatif, de formation dans le monde arabe. Ils font beaucoup de formations d'animateurs partout dans le monde arabe, partout. Ils font des rencontres, des colloques, des publications. C'est vraiment un grand centre de ressources dans au plein sens du terme. Donc voilà, et lui, il considère toujours que c'est la continuation d'un travail qu'on a fait. En fait, c'est la continuation d'un livre qu'on a publié, qui était au début une aventure absolument pas sûre, parce qu'on était une petite maison d'édition, et c'était un projet qui était très lourd. C'est venu par ma femme est médecin, donc elle a travaillé dans le quartier populaire pendant la guerre, pendant le camp palestinien, et elle est tombée sur un livre qui était en anglais à l'époque, un peu de la médecine à l'urgence, mais de la médecine, ça s'appelle littéralement là où il n'y a pas de médecin. Ah. Voilà. Et c'était un livre qui était fait au Mexique, qui traduit après en anglais, et ça l'avait fasciné, ce livre. Donc elle nous a proposé ce livre. C'était pas du tout dans notre. Mais elle était tellement convaincue, elle est tellement timide, elle, dans la vie où elle parle tellement peu, ça nous a étonné qu'elle revienne toujours à la charge. Donc cet ami-là qui est contenu maintenant pour son projet a pris le livre, il l'a lu parce qu'il maîtrisait bien l'anglais, et il était fasciné, il a dit on peut l'adapter, parce qu'il fallait l'adapter. Et on a formé donc un comité de médecins spécialistes pour adapter ce livre. Et ce livre a été adapté, on l'a publié. C'était un grand événement. Et à partir de ce livre, il a continué, lui, son chemin après. Et c'est servi de base pour continuer son chemin sur le travail de formation médicale, sociale. Voilà. Donc c'est parti par petites étincelles comme ça.
Voilà. Là, tu es revenu à l'édition maintenant à travers le compte, donc ça fait un raccourci très...
Oui, 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 mais en vérité, c'est marrant, moi j'ai pensé pas du tout publier moi mes écrits. Comme tous les jeunes Libanais moyens orientaux, on a tous écrit de la poésie. Hein. Moi, une fois, première fois que j'ai rencontré Abdelatif Labi, le poète marocain, et on était chez moi, la première fois que j'ai rencontré en train de manger chez moi, il m'a dit à la fin de la soirée, lis-nous un de tes poèmes. Il a dit que j'écris le poème. Il me dit, est-ce qu'il y a un jeune Libanais qui n'écrit pas de poème? C'est vraiment, on s'est tous essayés. Donc on écrit, bon, pas bon, mais tout le monde s'essaye à la poésie. La poésie est vraiment centrale dans la vie au Moyen-Orient. Donc j'avais publié dans de suppléments littéraires, même quand j'étais ado, jeune, mais je ne pensais pas publier. Non, quand j'ai monté la maison d'édition, ce n'était pas publier des choses que j'écris, c'était publier des... On a publié des contes, d'ailleurs, dans cette maison d'édition. Mais pas mes comptes. C'est toujours vraiment par... Enfin, les choses arrivent par glissement. Hein. Quand j'ai enseigné à la fac, mais aussi au Greta, hein, je me suis rendu compte que mes étudiants n'avaient rien à lire à part le texte de travail, enfin le cours. Et le cours, c'était soit des cours que j'ai inventé à fur et à mesure, soit des méthodes, soit des cours à partir des méthodes que j'adaptais un peu à mes étudiants. Mais en même temps, il n'y avait rien à lire à côté. Et moi, j'étais venu du Liban en principe pour passer quelques jours ici. J'étais venu pour passer une semaine, donc je n'avais rien pris avec moi. Je n'avais pas de livre, j'étais venu avec un petit sac dans la main, donc je n'avais rien à leur proposer. Et du coup, vu que j'écrivais des nouvelles, à l'époque, je ne pensais pas encore les publier du tout, j'ai commencé à choisir parmi les nouvelles quelque chose d'accessible. J'écrivais avec calligraphie un peu pour qu'il soit agréable à lire, et je photocopiais et je laissais sur la table en disant « piochez pour le plaisir de lire si vous avez envie de lire ». Et il y a un texte qui est tombé dans la main d'une des étudiantes qui était prof aux Beaux-Arts, mais qui était fascinée par la calligraphie arabe et l'arabe, et qui m'a dit « je ferai quelques dessins, ça sera plus agréable à lire ». Elle a fait quelques dessins, et tout ça en noir et blanc, à l'encre de Chine. On a photocopié, et ce texte-là en arabe avec des dessins est tombé dans la main d'une amie d'un éditeur de l'Harmattan, qui a proposé ça. Il a dit « si vous le faites en bilingue, je prends ». On l'a fait en bilingue, et j'ai commencé à éditer comme ça. Donc j'ai commencé à éditer, puis j'ai pris du plaisir à écrire, puis j'ai édité un petit album par an, puis deux, puis trois, puis cinq, et puis voilà. Donc c'est parti comme ça, mais c'est... Et puis comme toute activité, j'écrivais avant, et même comme beaucoup de gens, j'ai pensé qu'il faut attendre que le moment vient, que l'inspiration arrive. Et donc j'écrivais comme ça parfois quand l'inspiration arrivait, mais je me suis rendu compte qu'à force d'écrire, après ça devient une drogue aussi. Je ne peux pas passer un jour sans écrire. Donc voilà, c'est devenu petit à petit une deuxième activité, même si elle reste encore toujours après le compte, mais c'est devenu une grande activité.
On a observé hier, lors de la soirée, hein, que c'était en fait des comptes avec plein de messages, plein d'humour, évidemment. Beaucoup de contes qui tournaient en fait autour de la femme, de l'amour de la femme, du respect de la femme aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu défends? Est-ce que systématiquement tes contes ont, une connotation un peu de message et de quelque chose à transmettre? Ou est-ce que c'est intrinsèquement tu es comme ça et de toute façon ça ressort dans tes contes? Je me doute un peu de la réponse.
Non, moi si tu veux, je ne crois pas qu'il y ait des contes innocents. Il n'y a pas de conte qui ne veut rien dire. Un conte cache toujours quelque chose. Mais honnêtement, moi, je n'ai réfléchi jamais à l'avance sur le choix du conte ou sur quoi contient un conte. Moi, je fonctionne complètement par amour. C'est-à-dire, si je tombe amoureux d'un conte, mais honnêtement, hein, comme on tombe amoureux de quelqu'un. C'est-à-dire, ça fonctionne au niveau du ventre, des tripes, ça ne fonctionne pas au niveau de la tête. Exactement comme une histoire d'amour, c'est-à-dire que quand je tombe amoureux de quelqu'un, je ne pense pas à l'avance que je vais tomber amoureux d'une jeune fille rousse avec les cheveux bouclés, avec les yeux comme ça. On tombe amoureux et après peut-être on commence à dire mais effectivement il a un grain de beauté là, il est comme ça, elle marche comme ça, elle parle comme ça. Ça, pour moi ça vient après, mais comme toutes les histoires d'amour. Donc après bien sûr quand on me pose la question sur tel ou tel conte, bien sûr je suis capable de réfléchir et de dire effectivement ce conte contient ça, il parle de ça. Mais au départ, c'est vraiment une histoire d'amour, c'est des rencontres avec un conte. Et on ne sait pas pourquoi dans un recueil où il y a parfois 200 contes, il y a un conte qui va nous prendre, ou aucun parfois. Parmi les centaines des contes qu'on écoute, pourquoi tel nous prend? Voilà, donc ça fonctionne plus par rencontre et passion comme ça. En plus, comme hier, j'avais pas de thème, j'avais une carte blanche. Et quand j'ai pas de thème, je suis incapable de choisir à l'avance ce que je veux raconter. Tout simplement, je suis un peu dans des parfums, dans des excitations, dans des ambiances, mais extrêmement vagues. Mais je suis incapable de savoir. Je suis impatient de commencer, de rencontrer les gens et de les raconter, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais raconter. Et bizarrement, hier, je me suis dit, bon, ils ont accueilli Mahmoud Darwish, la poésie. J'adore lire la poésie. Mais je vais commencer peut-être par un poème. en arabe. Et puis j'arrive, j'allume ma bougie et je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai glissé sur complètement autre chose. J'ai même oublié de lire un poème hier. Donc j'ai commencé, mais je me rends compte petit à petit que quand j'ai un thème comme ça libre, je commence par des concours moyens pour voir un peu s'il y a une bonne écoute et si c'est ça, je pars après sur des contes plus longs parce que c'est la forme que je préfère. En fait. C'est des contes à tiroir, des contes longs qui me permettent moi de m'installer, de voyager, et qui me permet d'inviter les gens à un voyage qui ne se coupe pas toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes. Voilà, mais est-ce que j'avais choisi dans ma tête à l'avance, en me disant je vais leur parler de la femme, je vais leur parler du partage, je vais leur parler du. Honnêtement, non. Et s'il faut que je réfléchisse pour voir qu'est-ce que j'ai essayé de dire hier, il faudra que je me rappelle vraiment qu'est-ce que j'ai raconté, tout ce que j'ai raconté. Je me rappelle vaguement, mais il faudra que je repasse dans ma tête. Non, c'est les femmes, moi, m'ont marqué toute ma vie. Hein, donc, moi, j'étais élevé par. Par des femmes essentiellement, j'étais nourri par des femmes au compte et même matériellement et j'étais fasciné par ma mère et par ma deuxième mère, c'est une voisine palestinienne qui a passé sa vie, qui était venue comme j'étais venu moi en France une semaine et qui bien sûr ça, vous devinez qu'elle a passé sa vie et qu'elle est morte dans mon village. C'était aussi un peu ma deuxième mère parce que c'était une conteuse hors pair. C'était une femme qui avait un cœur immense. Et c'est vrai, quand j'en parle, j'ai les mêmes sensations quand je parle de ma mère. Donc bon, ces deux femmes m'ont nourri. J'adore les femmes. J'ai grandi, j'ai pas changé. C'est sûr que ça doit apparaître quelque part. Hein, ça doit apparaître quelque part, mais ça se passe pas au niveau de la tête. Ça se passe pas au niveau de la tête. Et même en tout cas, si on n'a pas cette modestie, la vie nous ramène à cette modestie obligatoirement quand on raconte depuis longtemps. On raconte des contes parfois. Moi, je raconte des contes depuis 20 ans, 30 ans parfois. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui me renvoie quelque chose qui est dans mon compte que moi, je n'avais pas vu. On ne voit pas toujours tout ce qu'il y a dans, même quand on réfléchit sur un conte, on ne voit pas nécessairement tout ce qu'il y a là-dedans. C'est-à-dire, le conteur peut être attiré par un côté, par un point, par une image ou par une idée. Hein. Il y a certains contes qui sont absolument flagrants, qui sont sur le partage ou qui sont sur la femme, mais certains qui sont beaucoup plus subtils, on ne voit même pas ce qu'il veut dire. Mais on est attiré par quelque chose là-dedans. Et c'est un jour comme ça, il y a quelqu'un qui dit mais c'est évident, mais c'est normal que ça arrive ça au singe qui a vu ce que. Et effectivement, moi, je n'aurais jamais pensé à ça. Mais il y a quelqu'un qui a attrapé quelque chose que moi, je n'ai pas attrapé pendant que j'ai raconté ces contes.
Et avec ce qui t'a bercé depuis l'enfance au niveau des contes et tout ce que tu as lu, je suppose, dire que tu as en tête, outre tes propres contes, combien des centaines, des milliers de contes que tu as en toi que
Non, je suis incapable de compter, on me pose souvent la question. Je ne sais pas. Non, je crois que j'ai un répertoire. J'ai un répertoire extrêmement large et diversifié parce que j'ai baigné là-dedans depuis que j'étais enfant, mais parce que j'étais amoureux depuis toujours, même quand je ne me rendais pas compte que j'étais amoureux des contes et des récits. Enfin, quand je dis contes, c'est vraiment contes, récits, épopées. J'étais toujours fasciné, y compris quand l'image du conte s'est dégradée dans notre monde, au Moyen-Orient, quand le conte est devenu péjoratif, où on commence à se détacher, que c'est pas le moment. Même là, j'ai gardé cet amour secret pour le conte. J'ai jamais lâché vraiment. Et du coup, j'ai un répertoire extrêmement large des contes que j'y raconte, d'autres contes que j'ai racontés à un moment, puis comment lâcher à un autre moment. Un conte, finalement, je me rends compte que ça correspond à un moment dans notre vie. Enfin, pour moi, en tout cas, ça correspond à un moment dans ma vie beaucoup plus qu'à une réflexion à dire en ces moments, la société vit ça, c'est ça que je veux leur dire. J'espère que puisque je vis dans la société, j'espère que ce que j'ai envie, moi, enfin, ce qui me travaille, moi, ça correspond à quelque chose d'aujourd'hui. Mais donc oui, j'ai un répertoire extrêmement, extrêmement, extrêmement large. Donc je ne sais pas trop, non. Mais sûrement des centaines.
Je ne demandais pas des chiffres, non, bien entendu. Non, hein. Oui. Mais je me demandais ce que ça peut faire. Je ne sais pas. En tête, tu as toutes ces images, toute cette musicalité.
Oui, il y en a qui se cachent, d'autres qui restent à la surface, d'autres qui... Il y a des contes qui m'accompagnent toute ma vie, enfin, qui m'accompagnent depuis l'enfance, que je continue à raconter, que je continue à aimer pareil, que je continue à vibrer quand ils reviennent dans ma tête. Il y a d'autres contes parfois j'entends un mot, puis je dis, ah là oui, il y avait un conte que je n'ai pas raconté depuis 20 ans. Mais ça y est, j'ai plus envie de raconter, celui-là, il est parti ailleurs. Je raconte des épopées, enfin je raconte des choses extrêmement vieilles, des épopées sumériennes, des épopées kurdes, des épopées babyloniennes, des épopées arabes, des contes des mille et une nuits, des contes d'Orient, Inde, Perse, de la Méditerranée. Et puis depuis le temps que je suis sur la route, bien sûr, je choisis pas à l'avance qu'est-ce que je vais raconter, mais quand je rencontre un conte africain qui me prend aux tripes, même si je ne suis pas africain, mais j'ai envie de le raconter, je le raconte avec toute la modestie avec laquelle on peut raconter un conte qui n'est pas de notre culture. Je suis en France depuis un moment, je suis sûr qu'il y a des contes, surtout de la région où j'habite, du sud de la France, qui m'ont passionné, et c'est sûr qu'ils font partie des contes que j'aime raconter, que je raconte. Je raconte des récits d'aujourd'hui, des récits des femmes pendant la guerre au Liban. J'ai vécu au Liban, voilà, on revient aux femmes. J'ai commencé par raconter des récits de ma mère, mais pour avoir un petit recul et pour que les gens ne disent pas, ils ne parlent que de lui, de sa mère, donc j'ai transformé, c'était un récit parfois de la bouche de ma mère à la bouche d'une voisine. Et puis je me suis pris de passion pour ça. Je suis allé recueillir un peu de récits des femmes pendant la guerre, c'est-à-dire ce que les femmes faisaient pour que la vie continue pendant la guerre. Et j'ai fait, donc je raconte ça. Voilà, donc c'est extrêmement large. Je raconte des contes tristes aussi. Je raconte des contes. Enfin voilà. En vérité, je pars pas sur le principe du je vais raconter ça ou ça. Je pars sur les rencontres. Et même là, pour revenir au glissement avec lequel les choses se font, pour raconter des récits des femmes pendant la guerre, l'idée n'est pas venue à moi en vérité. Avec ma mère, on a continué à correspondre quand j'ai quitté le Liban. Et ma mère est illettrée, donc on correspondait par cassette. Et comme toute femme économe, comme toutes nos mamans, elle prenait la cassette d'une heure et demie parce que ses rapports qualité-prix, c'est la meilleure. Et puis, elle ne laissait pas du blanc parce que c'est du gâchis. Donc, elle remplissait d'un bout à l'autre. Et j'ai mis un moment à lui expliquer qu'il y a au début l'amorce, et là il faut laisser couler parce que voilà, donc j'avais la lettre de ma mère, c'est toujours des cassettes d'une heure et demie. Et une heure et demie, donc elle me racontait ce qu'il faisait, ce qui se passait, ce qui est arrivé à la voisine, aux voisins, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait quand il n'y avait pas d'eau, enfin voilà les choses quotidiennes pour que je reste un peu elle savait que j'étais quasiment forcé de rester, que j'avais toujours le projet de revenir. J'étais journaliste à la radio, donc elle m'enregistrait aussi sur la même cassette, les informations par les voix de mes copains. Puis il restait de la place, donc la voisine qui venait boire le café me disait ça c'est pour Jihad, dis-lui quelques mots, parle-lui de Maresh ta fille, qu'il ne pense pas qu'on est toujours tout le temps en train de pleurer. Hein. Donc mal, puis elle se rappelle un conte, il dit je ne sais pas si je t'ai raconté ces contes, mais si je te l'ai raconté, c'est pas grave, je te raconte encore. Et ça, la cassette, elle prenait 2-3 jours pour le lancer, puis c'est une femme. Très actif, moi j'ai pris beaucoup d'elle, hein. C'est une femme qui ne tient pas en place, elle dort très peu, moi aussi, donc elle dort, si elle dort à 10 heures du soir, à 2-3 heures du matin elle se réveille parce qu'elle a plus son maillot, parce qu'il y a un bombardement, hein. Donc elle prend son magnéto, elle enregistre des choses qui lui viennent, donc c'était et vu qu'elle beaucoup de morceaux de ses cassettes sont enregistrés la nuit tard, donc avec une voix comme ça, calme, sereine. Et un jour, j'étais en train d'écouter une lettre de ma mère, une cassette de ma mère, et il y a un ami très cher que j'ai rencontré, un Provençal, je l'ai initié un peu au conte aussi, et lui, il venait d'arriver chez moi à n'importe quelle heure, à minuit, à une heure, à deux heures, il voyait la lumière, il poussait la porte, il est entré, c'était très tard la nuit, j'étais en train d'écouter, donc, et vu qu'il ne sonne pas, il entre directement, il est entré, j'étais en train d'écouter, donc il a entendu, donc je voulais arrêter, mais il dit laisse. Et ma mère, bien sûr, parle en arabe, elle ne parle pas d'autres langues. Et lui, il ne comprenait pas l'arabe. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Il me dit, c'est quoi ? Je lui ai expliqué. Puis, je lui dis un peu de quoi ça parle. Il me dit, arrête de raconter du conte, raconte ça. Et du coup, je me suis dit, ah, peut-être. si je suis tellement passionné que parfois j'écoute la cassette deux fois, c'est que peut-être il y a quelque chose là-dedans. Donc voilà, je commençais à raconter des récits des femmes comme ça pendant la guerre. Une période, j'ai glissé un peu sur des récits de l'exode palestinien, mais parce que j'étais lié à cette dame aussi, à cette femme. Voilà, donc les choses sont venues comme ça. Donc le répertoire est large et diversifié, et selon le jour, selon l'humeur, et puis parfois selon ce que les gens me demandent, parce que j'ai autant envie de raconter une épopée qui a 5000 ans que le récit d'hier.
Justement, il y a tout ce côté, évidemment, tu reviens tout le temps là-dedans, je pense que c'est la chair de tes récits, mais qui sont populaires, qui sont éventuellement ancestraux, qui sont très, pourquoi pas, quotidiens, enfin. Mais est-ce que, puisque tu as travaillé aussi sur l'ethnologie, tu as lu beaucoup, tu es un intellectuel, est-ce que tu as fait des recherches, est-ce que tu as lu des recherches sur ce qu'il peut y avoir de commun, justement à l'humanité en général, à travers tous ces récits?
Oui. Oui, enfin, en vérité, les questions. Enfin, je pioche à gauche, à droite. Hein, j'ai jamais vraiment suivi un itinéraire des recherches précis. Quand je suis allé vraiment en amateur, en libre, écouter un peu de séminaires d'ethnologie. Je suis curieux des choses plus que quelqu'un de stable qui a suivi des études stables. Oui, bien sûr, ça m'interroge pourquoi je prends autant de plaisir à raconter la plus vieille épopée du monde. C'est le même plaisir que je prends en racontant des récits qui concernent ma mère, hein, et qui me concernent directement. Je crois que les contes, les récits qui ont traversé des siècles et qui ont réussi à passer des bouches à oreilles, un conte, c'est rien avant d'être noté, c'est du souffle. C'est une respiration, c'est vraiment rien, c'est de l'air. Et je me dis, si c'est parfois des épopées extrêmement longues, si c'est des contes parfois courts, ont traversé des siècles, c'est-à-dire des humains, des personnes en chair, en sang, ont transmis ça des siècles, je ne sais pas combien de dizaines de générations. Ce n'est pas par masochisme, c'est pas parce que j'ai ça, je vais te le donner, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous travaille et qui fait que ces petites choses qui paraissent complètement anodines, complètement farfelues, parfois il y a certains gens qui paraissent complètement farfelues, on se dit pourquoi, comment ils ont vécu si longtemps. Eh bien, je dis, peut-être voilà, ce serait intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Moi, j'arrive à une conclusion personnelle, mais je ne crois pas qu'elle est complètement personnelle, parce que moi, je crois qu'il y a plein de contes qui n'ont pas survécu, c'est-à-dire qui ont fait leur une période qui ne correspondait plus à rien et sont partis. Et puis, il y a des contes qui ont continué tout le long de l'humanité. Je crois que c'est parce qu'ils traitent des sujets qui concernent profondément l'humanité, c'est-à-dire qu'ils touchent à des thèmes qui nous travailleront tant qu'on est des êtres humains. Ça va être peut-être bateau ce que je veux dire, mais les thèmes de l'amour, de la mort, du partage, du destin, le destin dans le sens relation humaine. C'est-à-dire, il y a plein de contes, par exemple, dans les mille et une nuits, sur ce destin qui est expliqué par le fait que deux personnes qui se rencontrent, leur destin se lie à jamais. C'est-à-dire, voilà, pour moi, c'est absolument parlant de n'importe quel étranger, voyageur, ici ou ailleurs. Hein, je parle pas uniquement en France, parce qu'on est en France, mais puisqu'on est en France, c'est-à-dire pour moi, je ne peux pas croiser un sans-papier et que nos destins soient différents, enfin, soient séparés. Vu qu'on se connaît, on a le même destin. Et là, on a plein de comptes là-dessus, dans le milieu, deux êtres, non seulement des humains, mais deux êtres qui se rencontrent, leur destin se lie à jamais. Après, on se dit comment on peut maintenant, au moment où l'humanité devient un village où tout le monde se connaît, c'est-à-dire, je ne peux pas dire que je ne sais pas ce qui se passe en Afrique, je ne peux pas dire que je ne sais pas ce qui se passe en Palestine, et je ne peux pas fermer les yeux parce que pour le moment, ce n'est pas arrivé chez moi. On se connaît, nos destins sont liés. Le nombre de contes qui parlent de ça, donc je me dis, si ces contes continuent à vivre, c'est parce que quelque part, ça nous parle. Et moi, cette histoire du destin, et du lien avec aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé en vérité, c'est quelqu'un qui m'a renvoyé ça à la discussion après une soirée conte. Donc effectivement, les contes qui vont rester, ce sont des contes qui vont répondre à des questions que l'humanité continue à se poser. Il y a des contes qui viennent à un moment, qui dorment pendant une période et qui reviennent. Pendant la guerre au Liban, la guerre au Liban a réveillé le conte commençait à mourir. Hein. Elle a réveillé le conte, surtout chez les femmes. Le besoin de rassurer, le besoin de conjurer la peur, le besoin de redonner envie de vivre, tout ça a fait que les femmes surtout, hein, pas uniquement les femmes, mais surtout les femmes, ont retrouvé des contes. Moi, je sais, j'ai écouté de ma mère des contes que j'avais pu écouter depuis des années et des années et des années. Ils sont revenus parce que c'était le moment de dire que le petit, il est plus fort que l'ogresse. Voilà, et c'était évident. Enfin, moi qui étais adulte, j'entendais ma mère raconter ça à mes enfants, à mes nièces, à mes neveux pendant le bombardement. Je lui dis, c'est pas par hasard que ces contes sont revenus dans sa tête. Et je sais comment elle fonctionne, ma mère. Je suis sûr qu'elle n'a pas passé 2 heures à réfléchir, à dire qu'est-ce que je vais leur raconter. À un moment, quand elle a senti une panique, les enfants n'arrivaient plus à manger parce qu'ils avaient tellement peur, c'est lui venu, il a raconté un conte. Et pourquoi ces contes reviennent ? Ils reviennent parce qu'à un moment donné, ils répondent à un questionnement, à une demande dans le sens large et subtil du terme. Et du coup, voilà, je sors de ça en disant. Le conte ne peut exister que s'il y a une demande aussi, s'il y a cette question. Et même si le conte ne donne pas une réponse précise à la question posée, le conte permet d'ouvrir des portes, des réflexions sur la question. Et je crois que le conte, il ne faut pas qu'il donne une réponse précise, parce que qui est le conteur pour savoir quelle est la réponse précise à la question. Mais le conte, il permet d'ouvrir des portes, de se poser des questions, de réfléchir sur des choses, mais il ne vient que s'il y a une demande, s'il y a une envie d'écoute. Et quand la guerre au Liban a commencé à glisser vers des teintes confessionnelles, religieuses, c'était évident que dans la petite famille dans laquelle j'ai grandi, on pouvait être intellectuel ou illettré, en tout cas on ne pouvait absolument pas avoir des réactions confessionnel, on ne pouvait pas ne pas aimer l'autre parce qu'il est de telle confession. Ça, c'était impossible parce qu'on est né d'un mariage mixte dans lequel chacun a gardé sa confession par choix et décision. Hein? Et à l'époque où ça ne se faisait pas, et avec deux personnes qui sont illettrées, mon père est quasiment illettré, il déchiffre un peu, mais c'était même pas une démarche intellectuelle. De dire non, chacun garde, chacun vit. Donc c'est sûr que ces mélanges, quelque part, c'est évident qu'ils laissent des traces, même si on n'est pas conscient de ça.
Est-ce que tu connais l'expression, parce que moi j'ai un peu tendance à dire que le hasard n'existe pas, que les rencontres se font parce qu'elles doivent se faire et que les choses se font parce que c'est dans l'ordre des choses qu'elles se font. Et en fait, il y a une expression, on n'est pas d'accord là-dessus avec Julien, mais c'est pas grave.
Il y a un compte là-dessus.
On est amis quand même, ça n'empêche pas. Il y a, moi j'ai entendu dire dans le monde arabe que hasard, c'était le nom d'un dé, en fait, qui désignait un dé d'un jeu qui s'appelle le jeu de Dieu. Est-ce que tu connais ça ou pas ?
Oui, hasard, c'est le mot zahr qui est transformé.
Voilà.
Et Zahar, c'est jusqu'à maintenant, hein, c'est le nom du dé avec lequel, on joue, hein, c'est Zahar. Et on dit qu'il a des bons Zahar, c'est-à-dire qu'il a, quand il jette, il y a eu 2-6.
Il a une bonne main.
Voilà, une bonne main, une bonne chance. Et les mots Zahar, oui, Hazar vient de. C'est les mots Zahar arabes qui donnent Hazar. Oui, mais parce qu'on considérait qu'il est Dieu décider les choses en jettant les dés et dire voilà, là on envoie. L'amour, là on en voit la famine, là on en voit s'amuser comme les humains.
Est-ce que tu as envie de nous dire un mot sur ce conte ou pas, en arabe par exemple?
Il y a un conte sur le je te parlerai en arabe juste après, mais un conte, des contes sur le hasard, les destins, les rencontres qui ne sont jamais fortuites, ça il y en a plein, hein, parce que c'est le destin et le hasard, c'est-à-dire ce qui est décidé à l'avance et ce qui est fortuit, ce sont deux écoles qui sont affrontées pendant des siècles dans la culture arabe et arabo-musulmane après. Donc, mais il y a un conte qui est très beau dans les mille et une nuits sur d'ailleurs sur deux amis inséparables mais qui n'étaient jamais d'accord.
Je te rappelle quelque chose.
Oui. C'est qu'on traite du destin. L'un qui dit, un de deux amis défend l'idée que les choses sont écrites à l'avance et que le destin est écrit depuis toujours. Et les pauvres sont pauvres parce que c'est leur destin, les riches sont riches parce que c'est leur destin. Puis il n'y a ni à protester, ni rien à faire en tout cas. Personne ne peut changer ce qui est écrit à l'avance. Et l'autre défendait l'idée que non, si les choses sont écrites, elles sont écrites peut-être, mais on peut toujours les changer. Mais il suffit de faire la rencontre au bon moment. Et voilà, donc les deux discutent, c'est peut-être un peu comme vous deux, c'est-à-dire ils sont pas d'accord, mais jamais l'un ne lève la voix plus haute que la voix de l'autre, et ils s'écoutent et ils discutent, pas d'accord, et voilà, puis ils décident de tenter l'expérience. Ils décident de tenter l'expérience, et puis finalement, va gagner celui qui défend le point de vue du destin qui change quand la rencontre arrive.
De toute façon, les mythologies, parce que j'y pensais, en fait, les contes, les récits, quel que soit le nom, les épopées qu'on leur donne, ça aussi, c'est ça, les mythes, les grands mythes de l'humanité, que aussi, après, tout le monde n'est pas forcément enclin à faire ça, mais que la psychanalyse a repris, évidemment, pour essayer de comprendre l'humanité. Justement, ce point de vue très personnel, c'est... Je crois que rien n'est écrit, parce que je ne pense pas justement qu'il y a un ordre des choses et qu'il y a des dieux ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'on a besoin de mythes et qu'on peut tout réinterpréter comme on veut. Je ne sais pas comment dire. C'est que c'est ça qui fait aussi la littérature facile.
C'est-à-dire que l'être humain a besoin de comprendre. Voilà. Il ne peut pas vivre dans l'inconnu. Il a besoin de comprendre. Donc les mythes, ce qu'on appelle aujourd'hui nous les mythes, c'était très très probablement la science de l'époque. Oui. C'est-à-dire que l'être humain, il fallait qu'il explique ce qui se passe autour de lui. Et pour expliquer, il faisait avec ce qu'il avait sous la main. Hein. On continue à faire ça aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire pour expliquer là aujourd'hui comment l'univers est né, on est arrivé, on est sorti de la théorie biblique, qui n'est pas uniquement biblique, qui vient de beaucoup plus loin en vérité, à la théorie des Big Bang, à la théorie de cette explosion dans le néant, puis on est en train de dire est-ce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire plus les connaissances avancent et plus l'homme adapte son explication, mais il a toujours besoin d'une explication qu'il considère comme étant la science de l'époque. Est-ce que l'homme descend du singe? Est-ce que le singe descend de l'homme? Tout ça, c'est en fonction de découvertes, des connaissances qu'on a, on construit une théorie qu'on prend pour une science parce que l'être humain a besoin de s'assurer, de savoir. Il ne peut pas vivre dans l'inconnu absolu.
De faire le lien.
Donc, tous les mythes, toutes les légendes anciennes, qu'on sait maintenant que ce sont des légendes, on sait maintenant que c'est de l'imaginaire, à l'époque, c'était la science. C'est-à-dire, à l'époque, expliquer pourquoi il y avait la foudre, c'était scientifiquement, c'était parce que les dieux se sont fâchés, parce qu'ils ont envoyé la foudre.
Une explication assez logique, en fait, de voir un éclair et de prendre.
Pourquoi il y a la famine? Parce que tel dieu qui défend ça, et tel dieu qui défend ça, l'autre était le plus fort, et du coup, il a envoyé la famine. Pourquoi le déluge? Le déluge biblique, qu'on va retrouver dans la Bible, qu'on va retrouver dans le Coran, qu'on va trouver dans les trois religions monothéistes du Moyen-Orient, on s'est rendu compte avec les découvertes des écritures sumériennes que les déluges datent encore de 2000 ans avant la Bible, et que c'était exactement la même explication, les détails du détail, la longueur, la taille, combien de clous on a utilisé pour l'arche, combien de tonneaux de bitume, combien de goudron, qu'est-ce qu'on a pris en réserve au cas où il y ait des problèmes, quel genre d'huile on a utilisé pour enfoncer les clous, pour que l'eau ne pénètre pas, des détails absolus. D'accord. Donc, avec tous ces détails, c'était absolument scientifique. Donc, personne ne pouvait mettre en doute ça. C'était encore plus fort que les déluges dans la Bible, auxquels les gens ont cru. Peut-être qu'il y a encore des gens qui croient scientifique, enfin, comme étant une vérité. Donc, ça vient de très loin. L'être humain avait besoin d'expliquer toujours. Donc, il a expliqué des petites choses, de pourquoi il y a le feu, pourquoi il y a rien, pourquoi il y a... Et à un moment, il avait besoin d'expliquer plus large que ça, c'est-à-dire comment ce monde est organisé, parce qu'il ne peut pas, plus l'être humain sortait de sa caverne et de sa tribu, plus il voyait le monde autour de lui qui est limité par rapport à aujourd'hui, mais qui est immense. il avait besoin de voir comment ce monde est organisé. Il a calqué un peu sur comment lui il essayait d'organiser sa société.
Oui.
Donc, vu que, d'ailleurs, c'est pas par hasard que je sais pas s'il y a une culture où le premier dieu était un homme. Quasiment partout, c'était une femme, parce que c'est elle qui donne la vie, donc c'était une femme, c'est elle qui est là. Puis après ses enfants sont révoltés, ils l'ont assassiné, ils ont pris sa place, ou son mari, mais au début, c'était une femme, et ça correspondait à l'organisation sociale de l'époque, c'était la société matriarcale qui était en train de changer complètement. Et chez les Sumériens, c'était une mère, c'était la première déesse que ses enfants l'ont assassiné, parce qu'il y avait des conflits comme les conflits parmi les humains. Il y avait et ils ont dispersé son corps qui a fait ces mondes qu'on a aujourd'hui. C'est le corps de notre mère déesse au début. Et puis peut-être. Et avant d'arriver à un dieu principal, les Sumériens ont mis un moment, ils sont arrivés à un dieu principal qui est quasiment le dieu unique, c'est-à-dire c'est lui qui va devenir Zeus après chez les Grecs, c'est-à-dire le grand patriarche avec les dieux secondaires qui vont devenir les archanges et les anges dans plus tard avec donc si tu veux, l'humain a toujours essayé d'organiser le monde. Le conte, une des fonctions du conte, c'est d'organiser le monde. Hein. C'est pour ça le conte peut être très farfelu, mais il est formateur pour les enfants comme pour les adultes, dans le sens où il réorganise les chaos du monde. Il essaye de donner une organisation à ce monde. Voilà, donc c'était la science de l'époque, ça. C'était pas uniquement du moment d'amusement.
Bien sûr, mais quand on dit c'était, ce qui est assez rigolo, enfin rigolo, je suis pas sûre parce que parfois ça n'est pas du tout, mais c'est que en ce moment même, non seulement dans cette pièce, mais dans la ville, et alors dans le monde entier, cohabitent encore toutes ces pensées, dont certaines, on va dire, avec un rationalisme, avec les guillemets qu'on peut y mettre occidental, en fait, c'est quand même élargi à beaucoup de gens. Que maintenant, les découvertes de la science ont fait que ces légendes sont du passé. Par exemple, voilà, comme on disait, les dieux grecs sont morts. Mais en fait, il y a encore des gens qui pensent tout à fait autrement. Et j'ai une amie, justement, quand elle était en Palestine, Yasmina, qui est sa famille est marocaine, et dans un petit village du Maroc, ça m'a vraiment beaucoup frappée. Sa grand-mère, je ne sais pas si c'est la vraie grand-mère ou une grand-mère, c'est une voisine, comme tu parlais, lui a dit, en regardant la lune, le soir, enfin, tu vois, sur la terrasse de la maison, et chez vous aussi, ma fille, vous en avez une de lune. Tu vois, voilà, dans le même temps où se développe de plus en plus de concepts, d'explications plus rationnelles, bon, alors, oui ou non, subsiste ça, et pas uniquement comme quelque chose de légendaire, comme une réalité.
Oui, si on veut pousser un peu jusqu'au bout les choses, la floraison des sectes dans le monde occidental, non seulement, parce que les sectes occidentales sont en train d'envahir aussi l'Afrique et ailleurs. C'est hallucinant quand on voit que c'est pas nécessairement les illettrés qui sont là-dedans, c'est pas nécessairement ceux qui n'ont pas fait des études, qui n'ont pas ouvert les yeux sur le monde. Souvent, c'est le contraire. Donc, bien sûr, on sait qu'on est toujours dans ces deux mouvements, dans ces deux mouvements de rationnel, d'irrationnel. Et l'humanité est encore très jeune. Hein, on a besoin de s'assurer. Donc, dès qu'on a une découverte, on s'y accroche, pas tous, mais la société généralement s'y accroche. Et puis, deux siècles après, trois siècles après, on se rend compte que c'est pas... La médecine, elle était scientifique depuis toujours. C'est-à-dire que les plantes avec lesquelles on soignait, c'était pas par hasard. On prenait pas une plante par hasard, on récitait deux phrases, elle devenait une plante qui guérit telle maladie. C'est parce qu'il y a eu des connaissances qui sont agrandies de plus en plus. Et le corps humain a été au début visualisé, imaginé, l'intérieur, avec les humeurs, avec les choses comme ça, qui était une tentative scientifique qui expliquait les choses et qui tenait sur une base de quelque chose. En tout cas, c'est pas complètement faux, mais c'était, voilà, il fallait, on a toujours besoin d'un système cohérent qui tient. Donc, quand il manque des choses, ben, on se les invente et on essaye que ça colle, que le puzzle se reconstruit. Une fois qu'on, même en forçant un peu, qu'on sent que ça y est, les choses tiennent ensemble, on dit voilà, ça c'est ça. Et ça restera la vérité jusqu'au moment où on découvre autre chose encore qui améliore ça.
Mais ce qui est intéressant, par exemple, on est en train d'écouter avec François l'histoire de la philosophie de Michel Onfray, des sections vraiment magnifiques. Et certaines choses de l'Antiquité qui semblent pas scientifiques et qui avaient été très contestées depuis, on se rend compte qu'en fait, ils avaient déjà anticipé sur beaucoup de choses de la science de maintenant, au niveau des noyaux, au niveau de l'ADN, au niveau du fait que, voilà, ce qu'on va dire que maintenant des poussières d'étoiles, ben, en fait, on en est constitué. Enfin, c'est assez extraordinaire parce qu'il y a des choses où, bon, évidemment, les humains étaient partis dans des mauvaises directions, enfin, en tout cas, on dit ça maintenant, et d'autres, et, au contraire, ils avaient prévu.
Non, mais on se rend compte que les philosophes qu'on appelait philosophes ou mystiques ou autres étaient arrivés à des conclusions par la logique ou par la méditation ou par les sensations, parce qu'ils se mettaient dans des états qui permettaient qu'ils attrapent des choses qui n'étaient pas toujours farfelues.
Ton personnage de Nasruddin, par exemple, tu expliquais hier quand tu as commencé à l'Iliade, a expliqué qu'effectivement il était nommé différemment suivant les régions, suivant les pays, et que tout le monde s'arrachait plus ou moins la parenté de cette personne et de ses histoires. D'où est venu justement le fait d'arriver à ce personnage-là et à ces histoires-là qui sont des histoires de tous les jours, moitié sage et moitié, moitié cinglé aussi, un petit peu comme...
Ouais. C'est un personnage qui est toujours très très vivant. Hein. Les premières traces de ce personnage dans le monde arabe datent du 8e siècle, années 700. Et puis, donc on trouve ces traces dans les littératures de l'époque. On les appelle, ils ont un nom à part, c'est ni des contes, ni des blagues. Le terme utilisé encore aujourd'hui, on les appelle les rareté, nawadir. C'est un peu de perles à part, c'est complètement différent des blagues. Certaines blagues, si elles sont fortes, si elles sont basées sur quelque chose, peuvent petit à petit, parce que c'est un répertoire qui se nourrit tout le temps. Il y a eu un deuxième essor important de ces personnages, trois, quatre siècles plus tard, en Turquie. Et c'est pour ça qu'il y a une grande dispute qui, en tant que conteur, elle m'intéresse que secondairement, parce qu'elle m'intéresse c'est le personnage, et pour moi il n'y a pas de frontière, il sera turc, il serait autant amoureux de lui, il sera africain, il serait autant amoureux, peut-être plus encore, enfin j'en sais rien, mais voilà. Mais par contre c'est sûr qu'il a été nourri partout où il est passé. Il y a des traces réelles de l'existence d'un vrai personnage qui s'appelait Abu Rosan, qui s'est retrouvé au début de la période, vraiment qui a vécu à cheval entre la période Omeyyade et la période Abbaside, donc dans les années 750. Et il y a quelques anecdotes d'époque qui sont notées dans des livres, parce qu'à l'époque, grand mouvement d'écriture depuis les années 600, on notait tout, et dans les livres d'époque, il y a trace de ces personnages qui joue les fous pour dire des choses que personne n'ose dire. C'est un personnage social, religieux, c'est quelqu'un qui est respectueux complètement, hein, ni religion, ni roi, ni... voilà, c'est un peu le fou du roi aussi. C'est lui qui peut dire des choses que personne n'ose dire. Parce que le roi a besoin d'un fou pour l'esprit, mais vu que la langue du fou peut fourcher, le fou demandait... Roi, qui n'était pas complètement fou, qui demandait toujours au roi ou au calife, au sultan, le mouchoir ou la parole, selon les cultures, qui lui dit que ta vie est sauvegardée tout et tout. Il a la parole qui ne risque pas sa tête lui du tout. On peut l'engueuler, on peut lui dire rien, on peut lui dire que je ne veux plus te voir pendant deux semaines, mais il ne risquera pas sa tête, alors qu'il était tombé sans problème à l'époque. Donc il y avait ça, c'était donner le mouchoir, donner la parole, enfin, c'est ce qu'on appelle donner la main, la sûreté que rien n'est arrivé. Donc ces gens-là, ils l'avaient. Et la première anecdote dit que quand les Abbasides sont arrivés, le chef de l'armée Abbaside est arrivé en Irak, il a entendu parler de ces personnages, il l'a cherché. Il est arrivé en tremblant et il a joué tout sur la première réaction qu'il va avoir, il a réussi. Et il a eu la sûreté. Donc ces personnages, mais ces personnages continuent à exister aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens ne racontent pas des histoires de Boussal, de Jeha ou de Nasruddin. Les conteurs ne racontent pas des contes de Nasruddin. Mais il n'y a pas. Allez, si je ne veux pas exagérer, il n'y a pas une semaine où tu n'entends pas une histoire. C'est parce que François va faire quelque chose qui va me faire penser à ça. Je lui dis, si je ne la connais pas, je vais lui raconter. Mais beaucoup d'histoires, on ne les raconte plus. Beaucoup d'histoires, on dira à Juliette, mais on n'était pas comme Nasruddin et son clou. Ça y est, on n'a pas besoin de raconter parce que tout le monde connaît. Le calendrier éphémérique jusqu'à maintenant, qui est toujours très répandu, tu offres une page de maximum la troisième, c'est une histoire de ce personnage. Il est tellement fort, il est tellement subtil, qu'il a mangé tous les autres personnages. Parce que dans le monde arabe, dans les affaires arabes anciennes, il y a plusieurs personnages qui ont ce caractère un peu comme ça. Mais lui, il est parti tellement loin. Enfin, il est parti très loin. On ne sait même pas s'il a existé vraiment, ce personnage. Mais il est tellement réel, tellement vrai, tellement fort, il a attraper et adapter à lui toutes les histoires qui étaient racontées au nom d'autres. Mais y compris certaines anecdotes qui historiquement sont arrivées à tel poète, à tel personnage, à tel calife, et qui étaient sûrement racontées pendant un siècle au nom de tel poète, parce que c'est arrivé pour de vrai. Un siècle après, ça a glissé Nasruddin ou Gérard un jour. Et on trouve dans le recueil de Nasruddin, Gérard, on trouve des histoires qui sont dans les livres littéraires certifiés, sérieux, etc., qui sont arrivés à Abu Nawas, les poètes du vin célèbre qui étaient les compagnons du Harun Rachid, du grand calife, qui sont arrivés à tel autre poète, ou à tel, et petit à petit, avec le temps, ça devient l'histoire de Nasruddin. Mais ça continue encore, hein, ça continue encore. Quelqu'un qui veut dire quelque chose dans un pays où il y a encore de l'oppression, eh bien, il ne pourra pas le dire, sinon le lendemain il est en prison, mais s'il dit un jour, Gérard. Un jour, j'ai
rappelé. Je vais m'y mettre.
J'entendais parler de ça. Alors, je crois, Leslie, t'as pas entendu parler de ça, parce qu'il me semble que dans la culture juive, justement, il y a
Il s'appelle pareil, mais avec les prononciations, ça change.
Ah, c'est ça.
Par exemple, chez les juifs orientaux, ils l'appellent Jaha. Mais en vérité, c'est le J. Les langues sémitiques, l'hébreu et l'arabe, les voyelles n'ont pas de statut. C'est les consonnes qui donnent le sens. Ce sont les consonnes qui donnent le sens. Et du coup, les prononciations du voyelle n'ont aucune importance. Moi, qu'on m'appelle jihad, 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 j'entends la même chose, j'entends pas de différence en plus. J'ai commencé à voir les différences quand j'ai commencé à enseigner l'arabe à des étrangers, où effectivement, jou, jihad, ça perturbe. Mais nous, ça ne perturbe pas d'entendre j à la place du jou ou à la place du jihad, parce que ça n'a rien à voir avec les sens. Le sens va être donné par les lettres j, h, d. Garde.
Oui, c'est les bases des racines. Et en fait, après, c'est toutes les diphtongues et les variantes. En fait, à partir d'une base de syllabes, je peux avoir tout le champ lexical d'un mot qui est varié par une ou deux voyelles. Mais tu peux avoir toute la base, par exemple, du champ lexical de l'écriture ou de la lecture avec la même racine de trois lettres ou de quatre lettres. Le plus souvent, c'est trois lettres. C'est pareil.
C'est un arbre, la racine va donner un tronc, on appelle ça le nom d'action, l'infinitif en quelque sorte. Et puis après les branches qui vont. Mais par contre, tous les mots, tu peux avoir un mot de 15 lettres, tous gardent le souvenir exact de trois consonnes. Et pour trouver le sens du mot, il faut repérer la racine. Schématiquement, si tu cherches les mots ensablés dans le dictionnaire, c'est pas à eux que tu vas le chercher, c'est à S, parce que la racine c'est SBL. Donc tu apprends à repérer la racine instinctivement, parce que sinon tu cherches, tu pourras rien trouver. Et du coup, inconsciemment, quand on entend un mot, sans réfléchir, c'est la racine qui va nous donner un sens. Donc les voyelles d'une région à l'autre, on ajoute des voyelles ou on coupe des voyelles. Donc, jeha peut venir jha. On enlève la voyelle. Et le je, le che, le glissement est très facile des régions adnances. Donc, il devient jha. Il devient goha en Égypte parce que le g en Égypte, c'est prononcé g. Et moi, je m'appelle Gihad là-bas. Mm-hmm. Voilà. Donc, mais c'est le même personnage qui va devenir Joufa en Sicile.
D'accord. J'avais entendu parler de lui, mais effectivement, c'était plus à travers la culture juive que la culture arabe.
Et moi, je suis
il est très, très présent.
Il est présent dans beaucoup de cultures, même au niveau de la culture africaine. Tu as quand même des personnages qui sont assez récurrents et qui te racontent... En fait, ils sont tellement humains, ils vivent tellement des situations qui sont quotidiennes, mais qui, des fois, peuvent être extraordinaires, que ça te sort un petit peu de ce quotidien, alors que l'histoire, elle est plus ou moins banale, quoi. et avec ce recul et ce vécu que peut avoir le personnage et tout l'enrichissement qu'il peut avoir par rapport à ces histoires. Moi, je suis une fan, je les ai tous lus.
je suis amoureux de ce personnage. Hein, je suis amoureux de ce personnage. Mais bizarrement, maintenant, quand je m'entends parler d'Afrique, en Afrique de l'Est, à Djibouti par exemple, mais aussi dans les îles en face, Mayotte, ces personnages existent, mais bizarrement, ils existent sur le nom d'Abou Nawas, c'est-à-dire le vrai poète qui a existé, et dont chez nous, Nasruddin a récupéré l'histoire d'Abou Nawas. Là-bas, c'est le contraire. C'est Abou Nawas qui a récupéré les histoires de Jaha Nasruddin. Et les gens, la première fois que j'ai raconté à Djibouti, on a ce personnage, mais on l'appelle Abou Nawas. Enfin, Abou, Abba, Abi, c'est des déclinaisons, hein, c'est la même chose. Voilà. Sinon, il y a des personnages facétieux dans toutes les cultures, hein, les faussages. Mais celui-là, il a une force qui n'existe nulle part ailleurs, et c'est pareil. Quand on voit ça, à un moment, on dit pourquoi. Et comme nos ancêtres essayaient de dire pourquoi il y a la foudre, on essaie de trouver une réponse, on dit c'est la réponse, peut-être, et on verra s'il y a une autre qui arrive. Moi, je trouvais une réponse, je ne sais pas si c'est la bonne. Moi, je crois que ce personnage est si fort et si important, il déclasse tous les autres personnages du monde, parce que maintenant, qui va au Québec, tu vas entendre le conteur québécois raconter l'histoire de Nasruddin, qui va en Afrique, ou de Jaha, tu vas partout, il devient international, vraiment. Et tu te dis, mais pourquoi tu vas en Suisse alors qu'ils sont loin, et déclasse des loin, loin. Tu te dis, mais pourquoi? Moi, je comprends à la limite que je sois attaché au compte de Jaha Nasruddin parce que c'est ma culture, j'ai les clés et tout ça. Mais pourquoi un conteur occidental se laisse fasciner par ça et il adapte ça, il adopte et adapte ça? Et je me suis dit, finalement, c'est sûrement pour une raison très simple. Beaucoup de personnages facétieux, ils ont une ou deux facettes qu'ils assument bien. Nasruddin, il a toutes les facettes humaines et il assume ça avec une impertinence, une clarté, une honnêteté extraordinaire. Il assume qu'il soit courageux. Il assume qu'il soit un grand lâche. Il assume qu'il soit généreux. Il assume que parfois il est avare. Et c'est comme ça. Il assume qu'il est peureux, qu'il fuit la guerre. Il assume tout ça, aucun souci. Il assume que parfois il est agacé par les enfants. Il assume tout ça, clair. Il a toutes ses facettes et il les assume tellement bien que ça paraît cohérent. C'est-à-dire que tu passes des Nasruddin absurdes à Nasruddin grand sage, à Nasruddin fou, avec une aisance sans problème et c'est admis. Parce que tout ce qu'on n'ose pas assumer nous-mêmes dans nos comportements, toutes nos petites lâchetés qu'on cache, lui, il ne cache pas.
C'est un peu nous quand on arrive à se lâcher.
C'est absolument nous avec notre complexité. C'est nous avec notre complexité. C'est-à-dire, qui c'est parmi nous qui n'a pas eu peur un jour? Qui c'est qui parmi nous qui n'a pas été lâche un jour? Qui c'est qui parmi nous un jour où il a hésité, au lieu de donner, finalement, il a retenu dans sa poche, alors après il a dit j'aurais pu donner? Qui c'est parmi nous qui n'a pas fait ça? Tous, lui, il a su son propre. Et compris quand on lui dit, mais ce que tu fais là, c'est idiot, il dit.
Avant de partir, j'ai envie de te poser encore une question et mes amis continueront bien après aussi. J'ai vu que tu participais, que tu animais des ateliers d'écriture et entre autres des ateliers d'écriture en prison.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui. Ça fait un an que j'anime plus d'ateliers d'écriture en prison parce que, pour une raison très simple, je ne suis plus animé un atelier en prison. Ça demande d'être stable pendant déjà, bien sûr, pour que tu puisses entrer. Il faut que tu puisses ressortir, confiance. J'ai animé pendant plusieurs années des ateliers d'écriture. J'interviens toujours dans les prisons pour raconter. J'ai animé des ateliers d'écriture, de création du conte et d'écriture à la prison de Luynes, Aix-en-Provence. J'ai arrêté parce que j'arrive plus à avoir un rythme régulier et pour ça il faut avoir un rythme régulier. D'autant plus que j'ai travaillé beaucoup plus avec les mineurs qu'avec les adultes. Je travaille aussi avec les adultes, mais j'avais un atelier qui restait très longtemps avec les mineurs. Et les mineurs, heureusement d'ailleurs, ils ne restent pas très longtemps. La grande majorité ne reste pas très longtemps. Heureusement, mais malheureusement, beaucoup partent 2-3 mois et on le revoit revenir. et souvent elle revient pour des choses un peu plus graves, sinon pour les mêmes choses, mais qui s'aggravent parce que c'est à répétition. Donc il faut au moins être régulier dans 3, 4, 5 ateliers d'affilée. Et ça fait quelques années où j'ai fait beaucoup de gymnastique pour, enfin, j'ai fait beaucoup de gymnastique pour garder cet atelier. Et l'année dernière, je ne pouvais plus, donc ça fait un an que j'ai arrêté. Ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus. C'est toujours pareil.
Comment ça t'est venu? Comment t'as eu envie d'aller en prison pour animer ce
J'avais raconté. Enfin, on m'avait demandé dans le sud de la France parce que. Au début, je travaillais beaucoup dans le sud. Quand mes enfants étaient petits, je ne voulais pas partir loin de la maison. Donc, je travaillais beaucoup dans le sud, entre Lyon, Nice, Marseille, Montpellier. Et une des personnes avec qui je travaillais beaucoup, qui organisait beaucoup d'activités culturelles, m'avait demandé un jour si j'acceptais de raconter en prison. J'ai trouvé que c'était extraordinaire. Moi, je crois que cette parole, elle peut s'adapter à tous les lieux, donc que ça ne demande pas une structure spéciale. Si on a une salle, ce sera dans une salle, sinon dans n'importe quel coin, elle peut se faire. Donc voilà, ça a démarré comme ça. Et puis, il y a des moments comme ça, si on prend toujours du plaisir à raconter, mais il y a des moments magiques où on ne sait pas pourquoi. Il y a un plus. Et j'ai gardé un grand souvenir humain de la première séance. C'est quelqu'un qui m'a dit une phrase qui était complètement bateau peut-être, mais enfin, entendu comme ça avec 15 ans plus tard. Mais un adulte qui était venu, un peu, j'ai discuté avec eux au début avant de commencer, puis je garde un moment à la fin de discussion quand je suis dans des lieux comme ça, à prison ou ailleurs. Donc, bon, cet homme était venu parce que ça le fait sortir de la cellule. Pour adulte, c'était pas. Enfin, maintenant, on commence à accepter le compte pour adulte il y a 15 ans, c'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui admettaient que le compte soit pour les adultes. Donc, il était venu comme ça, puis cet homme a plongé. Enfin, tout le monde a plongé, mais il a plongé complètement. Mais je crois qu'il avait une telle réticence à ne pas venir, je crois qu'il s'était tellement convaincu de venir, en tout cas, ça ne serait pas pire que dans la cellule, il allait rejoindre la cellule deux heures après. En tout cas, j'en sais rien, il y a quelque chose, il était bouleversé cet homme, et avant de se quitter, après, à la discussion, il n'a pas dit grand-chose, et quand on s'est quitté, il était tellement ému, il m'a serré la main, et puis il m'a dit une phrase qui était très banale, hein, il m'a dit, je suis évadé pendant deux heures. Mais dans la bouche d'un prisonnier, ça prend, voilà. Et puis, mais c'est plus que sa phrase, l'état d'émotion, en tout cas, moi, j'étais sur un nuage en sortant. J'avais de la peine à sortir. J'étais mal en sortant, sachant qu'eux sont là. Parce qu'ils tissent un lien avec l'humain. Parce qu'ils bon, sont là, il y a des raisons pour qu'ils soient là. Ça ne me regarde pas, mais ils tissent un lien avec pendant les comptes, ils tissent un lien avec l'humain qui est en face de toi. Et c'est fascinant de voir des gaillards qui sont là pour des histoires plus ou moins graves. Moi, j'en sais rien, je vais surtout pas savoir. De voir comment ils plongent comme des gamins, comment les yeux partent, et comment ils réagissent absolument comme n'importe qui, gamin ou adulte. Hein. Voilà, donc, du coup, j'ai pris l'habitude de dire que j'interviens aussi en prison. Bon. Et du coup, partout où j'étais dans un festival, on me proposait que c'était possible d'intervenir en prison. Et il y a une amie bibliothécaire qui allait animer un atelier à la prison des Mines et qui m'a dit, écoute, il y a des ados complètement perdus, tout ça, tu ne viendrais pas le raconter, je suis allé raconter, comme ça. Et du coup, on est passé, j'ai proposé de revenir. Les ados étaient d'accord, l'enseignant de la prison qui monte le projet était d'accord, il a monté le projet, on a rencontré le directeur de la prison qui était d'accord, on a monté le projet d'atelier d'écriture avec les ados, les mineurs et les adultes, deux ateliers différents. Et j'allais une fois par semaine. Mes premières années, c'était bénévole, c'était parce que j'avais envie de le faire. Et au bout d'un an, enfin pendant l'année, vu que ça fonctionnait, l'instituteur a monté un projet pour financer l'atelier. Donc l'année d'après, j'ai continué. C'est encore une autre facette de l'humanité, c'est-à-dire tu as des choses, je ne veux pas dire qu'en qualité différente, en tout cas différente. Parce que j'ai animé d'autres ateliers d'écriture ailleurs, hein, dans des théâtres, dans des... C'est autre chose qui sort, c'est une autre approche. Et qui est extrêmement intéressante.
C'était vraiment pas du tout anodin, ma question.
Non, je sais.
Je sais que tu as animé d'autres ateliers d'écriture dans des écoles, dans des bibliothèques, mais aller dans une prison, à partir du moment où on fait rentrer quelque chose de l'extérieur dans une prison, moi je me dis toujours qu'il y a quelque chose qui en ressort. C'est-à-dire que les gens restent à l'intérieur, mais soit, ou ce qu'on peut y faire, il y a forcément quelque chose qui en ressort. Et peut-être qu'après, toi, de ton côté, ça peut te donner des idées de compte. Et la parole que t'a dit cette personne en disant « je me suis évadée pendant 2 heures », évidemment qu'elle aurait été dite dans un autre contexte, elle n'aurait pas eu le même impact.
Oui. Ça fait plaisir toujours, mais ça n'a pas le même impact. Et puis, tu sais, dans ce travail sur le conte, nous, les conteurs, on se nourrit beaucoup. C'est-à-dire moi, de ces gens, des rencontres, je me nourris beaucoup. Je me nourris essentiellement de ça. Et cette nourriture fait aussi que je rencontre d'autres contes que je n'aurais pas rencontrés aussi. Donc, c'est pas... je dis ça pour pas dire qu'on va donner là-bas. C'est-à-dire on va partager, en tout cas, comme on partage ailleurs. Mais c'est vrai, ça prend une autre dimension. Raconter, c'est faire voyager aussi, faire évader, ouvrir aussi des portes. Hein. Et quand tu es dans un lieu fermé, peu importe la raison, hein, légitime, peu importe la raison, légitime, pas légitime, mais dans le lieu enfermé, ouvrir des portes et sentir que ça marche, même si c'est un entre-bâillement, oui, ça prend une autre dimension, on vit pas la même chose. Maintenant, est-ce qu'il en ressort quelque chose après pour les autres? Je l'espère. Je n'ai pas d'illusion, c'est pas une baguette magique. Hein. C'est-à-dire le conte ne transforme pas l'être humain comme ça. Hein. Moi, j'ai ma conviction absolue qu'il transforme à long terme. Moi, je sais que le conte me transforme. Mais la nature du conte, c'est différent de la morale, différent du discours. La nature du conte, c'est qu'il doit... il doit se déposer, il doit agir en douceur, il doit proposer, il doit garder la liberté de celui qui écoute. C'est-à-dire que le conte doit respecter la liberté de celui qui écoute. Il prend ce qu'il veut au moment où il veut. Et parfois, il écoute un conte aujourd'hui, c'est 6 mois après, 1 an après, où il y a quelque chose qui se réveille chez lui avec ce conte. Donc, moi, j'ai fait confiance à ça. Mais après, qu'est-ce que ça donne les gens? Enfin, si, ça m'arrive quand même de recroiser des gens qui me reconnaissent, même si je ne les reconnais pas. Mais bon, je suis incapable de quantifier les choses, mais c'est parfois il y a des rencontres qui font plaisir. J'en ai eu au moins deux qui voilà.